Aujourd'hui et pour quelques semaines, on va faire des résumés. Donc aujourd'hui, c'est un résumé du livre de l'Exode avec une petite introduction de la Genèse parce qu'il y a quelques mois, j'ai fait plusieurs prêches dans la Genèse, donc ce n'est pas la peine de revoir ça, mais j'ai introduit avec ça. Donc, dans la Genèse, on voit que Dieu est depuis l'éternité. Dieu est le seul qui est éternel. Et dans la Genèse, il révèle nos origines. Donc, la Genèse, les origines de toutes choses. L'origine de l'univers, la vie terrestre, le péché et le mal. Aussi l'origine des langues, les nations, plein de choses. Dieu donne l'origine dans la Genèse. Aussi dans l'optique pour définir son plan ultime pour notre salut, dans la Genèse, Dieu promet le salut et il enregistre, donc à travers la Genèse, toute une ligne familiale par laquelle le Sauveur viendra certainement. Il n'y a pas de généalogie pour que si cette ligne-là ne marche pas, Dieu amènera Jésus par un autre chemin. Hein? Il y a une lignée, toute à travers les Écritures, pour faire venir le Fils de Dieu. Un Fils nous est donné. C'est le Sauveur. Ce n'était pas une fille, ce n'était pas une vache, c'était Dieu qui s'est fait homme dans un petit garçon qui est devenu un adulte et qui a cédé sa vie sur la croix pour nous sauver. Un fils nous est donné. Donc Dieu a choisi le peuple d'Israël et a fait enregistrer par écrit sa révélation. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Les Écritures sont absolument vraies, sans faute, indestructible et digne de foi, digne de ma foi et digne de votre foi. Nous avons eu, il y a quelques semaines, Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Donc, je vais lire simplement Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc Dieu, il parle à Abraham, qui deviendra Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En parlant du descendant d'Abraham, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui n'était pas venu pour être le sauveur uniquement des Juifs, comme beaucoup de Juifs avaient cru à l'époque, mais le sauveur de toute la population de la planète, de tout peuple, de toute langue. Bon, ça c'est une tout petite résumé pour la Genèse. Après, on a l'Exode. Et l'Exode est un livre qui focalise sur la délivrance. La délivrance. Donc, Exode, c'est sortir de l'Égypte. C'est une délivrance nationale, mais on voit aussi dans le livre de l'Exode une délivrance individuelle. Donc, dans le chapitre 2, Exode chapitre 2, on a le fait que Moïse, qui était devenu fils adoptif de un petit-fils adoptif de Pharaon, n'est-ce pas, par la fille de Pharaon, eh bien, il a décidé de ne plus être considéré un Égyptien, le fils, petit-fils du Pharaon, mais de s'identifier avec le peuple d'Israël. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24, à ce sujet. Donc, c'est à propos de Exode chapitre 2, mais je lis dans Hébreux chapitre 11 et à partir du verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, donc il avait 40 ans, et il était bien grand. Hein? Donc ça veut dire qu'à 39 ans, il était toujours un jeune. Tout le monde est arrivé? Ok, Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est à 40 ans. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et vous savez bien par l'archéologie que l'Égypte avait des trésors. Dans tous ces tombes des pharaons et tout ça, tout l'or, les bijoux et toutes les choses qui sont là. Mais Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'était un acte de foi. On a une délivrance. Et je ne dis pas que Moïse a bien agi. Lui a mal compris comment Dieu voulait qu'il agisse. Et il a tué quelqu'un. N'est-ce pas? Ok. Pourtant, il n'était plus Moïse, l'Égyptien, mais il est maintenant Moïse, l'Israélite. C'est par la foi qu'il quitta Égypte. C'est-à-dire, il a pris la fuite parce qu'on allait le tuer, mais il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, mais qu'il fallait se sauver pour l'instant. Il a quitté l'Égypte, il est allé dans cet autre pays où il s'est marié, etc. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Okay? Donc on a déjà une délivrance individuelle. Et puis en Exode chapitre 3, nous avons cette situation où il y a une buisson, un genre d'arbuste qui brûle, mais qui ne se consomme pas. Tellement bizarre était cette chose que Moïse, qui a vu ça, il a dit, tiens, je vais m'approcher pour voir ça. Dans Exode chapitre 3. Et au verset 14, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, dit, attention, là, tu es sur une terre sainte. Recule. OK? Enlève tes souliers. Et Dieu dit à Moïse dans le verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, donc celui qui est l'Éternel, m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Alors c'est un verset que Jésus va citer plus tard. Pour dire qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce qu'ici, Dieu déclare que Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants. Et je voudrais dire, parce que ça semble que ça devienne une mode maintenant, de croire que quand on meurt, on s'endort. Et qu'on ne se réveille pas qu'à la résurrection. OK? Donc, le sommeil spirituel. Et ici, et Jésus ne dit pas qu'ils sont endormis, mais qu'ils sont vivants. Ils sont actifs. Quand on va mourir, on va partir de notre corps et on va être dans la présence de Dieu. On va être vivant, actif, interaction avec Dieu pour l'éternité. Plus tard, au jour de la résurrection, il va réunir notre corps, ressuscité et transformé, avec notre âme et esprit qui sont déjà dans la présence de Dieu. Mais il faut pas imaginer qu'on dort et que voilà, on n'a plus de conscience, rien du tout. Ça, c'est faux. Donc, toujours dans le verset 15, voilà mon nom. Pour l'éternité. Donc Dieu, il ne va pas changer. Il est toujours l'éternel et il est éternel pour l'éternité, n'est-ce pas? Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, donc il dit à Moïse, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK? Et puis, à partir de ce moment-là, dans les chapitres 4 au 17, je vous ai dit, c'est un résumé, hein? Chapitre 4 au 17, eh bien, on a cette voix qui a parlé à Moïse dans ou à travers l'arbuste, OK? Eh bien, cette voix va révéler et inspirer les Écritures saintes. Par la main de Moïse, Dieu va inscrire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ça va continuer à travers les siècles jusqu'à Malachie. Et puis, il y aura 400 ans de rien. Et puis, Dieu va recommencer et il y aura le Nouveau Testament. Sans que Dieu intervienne, qu'il nous donne cette révélation, on sera livré à nos ressources humaines. Quand j'étais en Californie, je vais sur l'autoroute et j'étais surpris de voir une grande, grande affiche d'un gourou quelconque qui a été né à telle année, il y a 500 ans. Et dans le truc, il dit « Dieu est uni ». Donc, Dieu est uni, un Dieu qui était né il y a 500 ans. Il y a quelque chose de bizarre là. Mais c'était une grande affiche, une publicité pour cette nouvelle secte en Californie. Et bon, ça doit marcher, je veux dire, d'une manière humaine, parce qu'ils ont l'argent pour faire une grande publicité comme ça. OK? Eh bien, livré à nous-mêmes, on n'a que les manipulations humaines. Les gens qui vont dire, ben voilà, il faut croire ceci, il faut faire cela, et voilà ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, et puis comment il faut plier pour prier, toutes ces choses que les gens dans la religion vont nous dire, sans savoir que ça plaît ou ne plaît pas à Dieu, parce que Dieu, si Dieu n'a pas parlé, on ne connaîtrait absolument rien de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu... Il avait communiqué avec les pères depuis longtemps, mais avec Moïse, il commence à enregistrer. Il commence à mettre ça à l'écrit pour que ça ne change pas, pour que ça soit enregistré à travers les millénaires jusqu'à nous. OK? Quelqu'un a une idée à quelle année Moïse était né, à peu près? Juste une, à peu près?
500.
Voilà, 1500 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ, donc ça fait 3500 ans, à peu près, que ces choses ont commencé à être enregistrées. Dieu ne veut pas qu'on soit manipulé ni par les êtres humains, ni par les démons. Parce qu'il y a plein de religions qui aussi entrent dans, comme le verset que j'ai lu tout à l'heure, qui entrent dans l'adoration des esprits et des morts et tout ça. Et les gens sont manipulés par ces choses-là, trompés. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on connaisse la vérité. Donc, Dieu intervient. Il intervient déjà par sa présence. Il s'est présenté à Moïse. Il ne se présente pas de même manière à nous. Hein? Il ne faut pas attendre de trouver un buisson qui brûle, qui ne se consomme pas. Ça ne va pas nous arriver. Mais Dieu est venu personnellement se présenter à Moïse. Et puis Dieu intervient dans nos vies avec ses capacités d'un Dieu qui est tout puissant, il peut tout faire. On a prié tout à l'heure pour la santé de quelqu'un. OK? Il est omnipotent, il est omniprésent, il est là pour nous entendre, il est là pour intervenir dans nos vies. Aussi par sa parole, pour nous donner direction et instruction. Alors, dans le livre de Moïse, Dieu va se manifester à travers 10 fléaux, les manifestations, on peut dire, horribles. On on peut pas rater que c'était des manifestations surnaturelles. Et alors, il y a quelques moments que les Égyptiens, les magiciens chez eux, ont essayé de reproduire les actes de Moïse par la puissance de Dieu. Et ils ont un peu semblant faire des choses, mais à chaque fois, Dieu les a surmontés. Il a, par exemple, les serpents des magiciens étaient mangés par le serpent de Aaron. Et quand Dieu a fait les grenouilles, donc les autres ont fait des grenouilles, mais qui ont pourri carrément partout, et c'était un grand fléau. Okay? Donc, Dieu s'est manifesté à travers ces choses, et l'Apocalypse nous dit que plus tard, par plusieurs de ces choses-là, Dieu va se manifester dans les derniers 3 ans et demi de la tribulation par la main des 2 prophètes. Il y aura encore de ces manifestations, des grands miracles pour que les gens se convertissent à Dieu, pour qu'ils s'humilient devant le Tout-Puissant. Et vous savez bien par l'Apocalypse que les gens ne vont pas se convertir, ils ne vont pas s'humilier, ils vont railler contre Dieu qui est à la source de toutes ces misères à ce moment-là. Le point, c'est que Dieu est tout-puissant. Il agit toujours selon qui il est. Il est de manière éternelle et parfaite. Et puis, en traversant le livre de l'Apocalypse, de l'Exode, excusez-moi, on arrive à la dernière fléau, donc la veille de la Pâque, où on doit mettre le sang sur les linteaux. Et on a donc soit la mort, soit la consécration de tous les premiers-nés. Soit la mort, soit la consécration. Dans tous les foyers, le premier-né est mort. Sauf où on a mis le sang pour que l'ange de la mort passe au-dessus pour épargner le premier-né. Et par la suite, Dieu va dire, et je vous ai épargné vos premiers-nés, vous allez les consacrer à moi. Comme Dieu a pu délivrer le peuple d'Israël, il peut nous délivrer de nos chaînes et des conséquences de nos péchés. On a besoin de délivrance. Alors, les Israélites n'étaient pas les Égyptiens. Il y avait une distinction, n'est-ce pas? Les Égyptiens voyaient bien la distinction. Et ils les mettaient à côté, et puis à part, et puis a fait en sorte qu'ils soient leurs esclaves. Dieu aussi a fait une distinction entre les Égyptiens et les Israélites. Donc, Dieu les a traités différemment qu'il a traité les Égyptiens. Les Israélites devaient donc respecter la sainteté de leur Dieu. Et donc pour les diriger, Dieu les a donné sa loi, une loi qui est résumée par Jésus en disant qu'il faut aimer Dieu à 100% et il faut aimer son prochain à 100%. Les deux côtés de la loi. Ok? C'était une loi que Dieu a donnée pour les Israélites, donc on parle de la loi de Moïse, il a donné pour gérer un peuple rebelle, un peuple qui n'aimait pas Dieu. Et vous le voyez bien, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert à cause de leur désobéissance. Nous voulons retourner en Égypte où la vie était facile dans notre esclavage. On mangeait bien. Non, ce n'était pas les Français. Alors, on voit à travers ces choses que ceux qui sont sauvés, donc délivrés, Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte, de leur esclavage, on voit que ceux qui sont sauvés doivent à Dieu une vie distincte du monde qui les entoure. Dieu veut que nous soyons saints. Et si vous lisez le verset après, donc Lévitique 20, verset 6, que je vous ai lu aujourd'hui, mais le verset 7, il dit, soyez saints. Dieu est saint, nous devons être saints. Cette idée est répétée deux ou trois fois aussi dans le Nouveau Testament. Alors, je voudrais parler donc, en revenant sur cette idée des esprits et des morts et tout ça, en particulier sur le sujet de l'idolâtrie. Dans l'Exode chapitre 20, donc Dieu, il est très clair qu'il n'accepte pas que les gens remplacent lui par autre chose. Quand j'étais à... c'était quel magasin? Bon, c'est pas grave. J'ai regardé un vendeur de cailloux, de minéraux, ou minérail. OK? Et donc, il y avait un livre qui parlait des puissances des pierres. C'est l'animisme. Il n'y a pas de puissance de ces murs. Autrement que c'est physique et ça supporte l'étage. Mais... je ne vais pas être en bonne santé si je me presse contre ce mur, ou que ça soit un amestice ou autre chose. Et puis, je regardais, puis j'étais surpris. Alors, j'ai fait tout le tour. Ben, il y a plein d'idoles hindoues parmi les pierres. Dans ma ville aux États-Unis, que Thomas me dit être assez éduqué, eh bien... il y a plein d'idoles. Il y a même des magasins qui vendent des idoles. Je veux dire, les idoles hindoues qui se vendent à ma vie aux États-Unis à tous ces gens éduqués. Je crois qu'ils ont raté quelque chose dans leur éducation. Parce que Dieu est le commencement de la connaissance. Bon. Quand Paul est revenu à Jérusalem en parlant de toutes ces anciennes païens qui se sont convertis à Jésus, la première chose que l'Église a dit, il dit, il faut abstenir des souillures des idoles. Et puis Jean a dit, gardez-vous des idoles. Et Paul a dit, fuyez l'idolâtrie. Eh bien, dans une grande église en Amérique, donc je ne vais pas dire laquelle, mais dans le foyer de l'église, donc les églises américaines sont assez vastes, donc leur foyer, c'est peut-être 10 fois notre salle, eh bien, au milieu, une grande statue d'un ange. Ça vient d'où, ça? Quand est-ce que les évangéliques ont commencé à adorer les anges, les statues? Donc, excusez-moi, chapitre 20, Exode chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. OK? Donc, il y a un objectif. La Bible n'est pas contre art. L'art, les peintures, les fresques, les vitraux, vitrailles, je ne sais pas comment dire ça. Hein? Ce n'est pas ça. Mais c'est l'objectif. Comment je sais? Parce que dans la Bible, Dieu dit, il faut, premièrement, Dieu dit qu'il veut que les artisans, les artistes, fabriquent les choses pour le tabernacle. Mais comment Dieu il peut se servir d'une chose qui est mal en soi? Il ne peut pas. Les artistes ne sont pas mal. Ce n'est pas les mauvais, les méchants. Ils sont les artistes, ils sont les artisans. Donc, Dieu ne les condamne pas de leur métier. Par la suite, il dit qu'il veut qu'ils fabriquent des chérubes au-dessus du propitiatoire. Alors, comment Dieu pourrait-il dire que c'est interdit toute art? Et puis, par la suite, dit, mais fais un peu de art dans le temple. Dieu ne se contredit pas. Mais le pourquoi est écrit. Si on fait quelque chose, un tableau, une photo, ou quelque chose, afin de le servir, afin de se prosterner devant, là, c'est ce qui est interdit. Par Dieu. Il y a aussi l'élévation des idées. Des idées, oui. Donc, il y en a qui servent la richesse. Il y a qui servent les sports. Il y a qui se soumettent à la violence. Il y a qui passent tout leur temps devant l'ordinateur pour jouer au jeu ordinateur. Il sert l'ordinateur. Il y a plein, il n'y a pas de fin de façon que les êtres humains peuvent remplacer Dieu. Et pourtant, quel est le premier commandement? Qu'on sert Dieu, qu'on adore Dieu de tout notre cœur et de tout notre être. Il n'y a pas de place pour le reste. Dieu veut être premier. Attention, je n'ai pas dit de jeter vos ordinateurs. Je n'ai pas dit ça. Ni votre télévision, ni votre appareil de photo, etc. Ce n'est pas le point. C'est la place que vous donnez dans votre vie qui devient l'idolâtrie ou pas. Alors, en allant à travers l'Exode, on arrive à comprendre que Dieu accompagne ses enfants. Après la délivrance, eh bien oui, il y a des démarches à faire. On se convertit à Jésus-Christ et voilà, on est à la retraite spirituelle pour le restant de ma vie. Eh bien non, Dieu va être avec nous à travers notre vie pour marcher avec lui. Ou avec nous, il marche avec moi et moi je marche avec lui. Il est là aussi dans les bonnes choses, mais il nous accompagne aussi à travers les difficultés et aussi les circonstances qui pourraient sembler impossibles. Oui, vous avez 2 millions de juifs dans le désert. Et d'où vient l'eau? D'où vient le pain? D'où viennent les oiseaux, les cailles? Ils avaient faim, ils avaient soif. Dieu a pourvu pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que leurs chaussures ne sont même pas usées à travers 40 ans. Et quand même, ils restaient incroyants à travers tous ces miracles quand Dieu les a accompagnés 40 ans. La mer Rouge, le colon de feu et de fumée, la manne, l'eau, il a même donné le culte. Alors, puisque Dieu a pu accompagner les Israélites à travers le désert, il peut nous accompagner à travers notre vie. Le problème que nous avons et qu'ils ont eu, c'est que nous sommes des êtres humains et nous sommes portés par notre nature à l'insoumission, à la désobéissance et au péché. Et là, on voit la sévérité et la grâce de Dieu à travers ces choses-là. Je voudrais retenir quand même certaines choses dans cette petite prêche. C'est que, premièrement, Dieu est éternel. Dieu ne change pas. Il est saint, il est tout-puissant. C'est vrai que la relation a changé. Parce que Dieu n'est plus en colère avec nous comme il était avant la croix. Par la croix, Dieu a été rendu favorable à l'humanité. Jésus a payé pour tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. La colère de Dieu était versée sur son Fils. Et ce salut est appliqué à tous ceux qui croient. Malheur à ceux qui ne veulent pas croire, parce qu'après, il faut qu'ils rencontrent Dieu dans sa colère éternelle. Aussi, à se souvenir que Dieu a inspiré les Écritures pour éclairer notre vie. Il veut nous aider. On a besoin des Écritures. Aussi, Dieu délivre les captifs et nous sommes tous pécheurs. On a tous besoin de cette délivrance spirituelle en Jésus-Christ. Et la dernière pensée, c'est que les rescapés, je vais dire ça comme ça, Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte. Il nous a délivrés de nos péchés. Je vais nous appeler, eux et nous, les rescapés. OK? Eh bien, les rescapés appartiennent à Dieu et doivent à Dieu d'être distincts du monde. On est différents. Je n'ajoute pas, je termine avec cette pensée-là. On verra d'autres choses dans les semaines à venir. J'ai préparé, David, tu peux distribuer ça pour moi. J'ai préparé une feuille là sur l'idolâtrie. J'ai pris de le dictionnaire biblique. Donc, Dieu interdit de s'incliner ou de faire un objet d'adoration. D'accord? Alors, comme je vous ai déjà dit, il y a plein de chrétiens dans le monde qui s'inclinent et adorent les objets, les icônes, etc. Ça, c'est dommage parce que ça ne devrait être. Ça devrait pas être. Mais j'ai fait quelques surlignes là et puis je vais lire à la fin. Sur le plan spirituel, l'idole peut évidemment être encore toute personne ou toute chose qui, dans son cœur, prend la place de Dieu. L'amour de l'argent, l'avarice, la convoitise, la gloutonnerie sont des formes de l'idolâtrie. Et plus bas, donc les idoles de Mammon, de Vénus, le sport, l'état, la puissance, le moi, etc. OK? Donc, je voudrais qu'on quand même on retienne un peu l'idée que nous sommes adorateurs du Dieu Tout-Puissant éternel et nous ne le remplaçons ni par les objets, ni par les idées. Okay?